Vous êtes détendu. Vos paupières sont lourdes. Vous êtes allongé sur votre lit, chez vous. Vous entendez du bruit. Vous vous levez et vous tombez sur un cambrioleur. Vous n'avez pas peur.
Ah, si.
Non, vous n'avez pas peur.
Ah, si, si.
Pour rester serein, confiez plutôt votre maison au professionnel Verisure. Pour une installation gratuite, appelez vite le 3112 ou rendez-vous sur verisure.fr.
Vous êtes sûr que je suis guéri ?
Verisure, madame.
Verisure par Securitas Direct, numéro 1 européen des alarmes télésurveillées.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et c'est une émission hors série que Franck Ferrand vous propose aujourd'hui. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. Complètement hors série même, puisque nous allons parler d'un univers assez éloigné de nos préoccupations habituelles, celui de la série de films Star Wars, auquel notre antenne se consacre aujourd'hui. Vous savez, en prévision de la sortie du 7e épisode, sous-titré « Le réveil de la force ». Pour nous guider dans ce monde tellement particulier, j'ai convié le Jedi de la rédaction d'Europe 1, l'ami Nicolas Carreau.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck, vous répondrez à la question d'Éric sur la façon dont nos ancêtres envisageaient l'avenir.
Je pense que Nicolas pourrait d'ailleurs répondre mieux que moi sur ce sujet qu'en grammaire on appelle le futur du passé. Pour le moment, c'est dans un passé très lointain et complètement légendaire que je vous propose de nous plonger. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Comme ça, des films qui ont marqué l'histoire du cinéma, une histoire qui est plus que centenaire maintenant, vous le savez. Certains, par leur audace, par leur innovation, ont bousculé les codes établis. Rappelez-vous par exemple Autant en emporte le vent en 1939, ou Citizen Kane qui a exploré 2 ans plus tard de nouvelles possibilités visuelles. On pourrait aussi citer, mais on en citerait beaucoup, mais pourquoi pas Rashomon en 1950, dont la beauté a littéralement bouleversé les spectateurs à travers le monde. Un point commun réunit toutes ces œuvres tellement différentes. Elles sont toujours dues à des esprits très originaux, des gens qui s'inscrivent en marge, à leur façon, des gens qui ont eu le plus souvent à batailler pour imposer ce qui s'avérera être une véritable révolution. Eh bien, le créateur de Star Wars ne déroge pas à cette règle. George Lucas a dû dépasser les doutes, les obstacles qu'on lui a constamment opposés pour que son œuvre voie le jour et donne un véritable souffle à la science-fiction et aux films d'aventure, des genres qui étaient un peu déconsidérés et qu'il a largement contribué d'anoblir. En 1973, ça fait déjà longtemps qu'une idée tourne dans la tête de ce jeune réalisateur. Je dis jeune réalisateur, il a 29 ans à l'époque. De façon plus ou moins claire, un univers s'esquisse en lui et une ambition se précise, il veut faire le film le plus original, le plus enthousiasmant qu'on puisse imaginer dans le cinéma de son temps. George Lucas est un réalisateur qui est plein de promesses. Il a achevé American Graffiti, qui est une comédie à la fois légère, nostalgique et novatrice, une comédie qui s'apprête à sortir en 73. Mais quand il évoque son projet encore un peu flou, de film dans l'espace, ça semble assez peu inspirer ses interlocuteurs, disons-le. Après avoir approché un certain nombre de studios, c'est finalement la Fox qu'il va convaincre. La Fox lui propose un accord plutôt modeste. Je cite George Lucas dans le Making of Star Wars. Il raconte lui-même. J'avais réellement besoin d'argent en mai 73, car j'étais couvert de dettes. C'est pour ça que j'ai signé l'accord. En septembre, au moment où ils m'ont envoyé un chèque, American Graffiti était déjà un succès et ma situation financière était bonne. C'est ironique, si j'avais un peu attendu qu'American Graffiti sorte, j'aurais pu obtenir de bien meilleures conditions. Alors, première étape, coucher sur le papier toute cette espèce d'univers fantastique qui l'habite et que lui-même a du mal à expliquer à son entourage, peut-être parce qu'il y est trop plongé. Des éléments confus flottent dans son esprit, il n'y a pas toujours encore vraiment de cohérence dans tout ça. Son souhait, bâtir une aventure dans l'esprit de Flash Gordon et des bandes dessinées qui l'ont beaucoup marqué lorsqu'il était enfant. Lucas sait que pour s'adapter aux attentes du studio et du grand public, il va devoir développer une intrigue solide, alors que lui, son goût naturel serait d'abord aller vers plus d'abstraction, ou du moins vers des narrations moins classiques, moins tendues, comparables à ce que propose la nouvelle vague française. Vous imaginez un film dans les étoiles qui n'aurait pas de scénario très construit, ça aurait été assez extraordinaire. Au bout d'un an, il n'en rédige pas moins un scénario, puis une deuxième version, quelques mois plus tard. Et c'est un ovni scénaristique, si je puis dire, nourri de très nombreuses références, on va en parler dans un instant avec Nicolas Caro, qui va déconcerter les producteurs. Des robots sont là, complètement mêlés aux humains et à des créatures assez étranges. Le tout sur fond de guerre dans l'espace, avec des vaisseaux spatiaux, des tirs au laser. À la lecture, ils sont pas très nombreux, ceux qui comprennent réellement à quoi on a affaire. On a du mal aussi à évaluer le budget, il faut le dire, et à la Fox, certains traînent des pieds devant ce projet bizarre et diablement risqué. On espère même, dans certains bureaux, que le film va tomber à l'eau. Seulement, Lucas a aussi des soutiens, il n'entend pas abandonner et il est là qui tient bon, il avance contre vents et marées. Bientôt, des équipes techniques sont recrutées, Lucas crée même une société dédiée aux effets spéciaux, qui feront quand même l'essentiel de la nouveauté du film. Son nom est déjà tout un programme, Industrial Light and Magic, ILM. En parallèle, le scénario, profondément modifié de version en version, ce scénario se précise, se peaufine et en août 75, on va pouvoir passer à la phase du casting. Alors, pour les trois héros de son épopée, Luke, la princesse Leia et Han Solo, Lucas ne veut que des inconnus. Mais au-delà de ce désir, ses instructions sont un petit peu lunaires, si j'ose dire, et ses échanges avec les équipes de casting frôlent le surréalisme. Voilà ce qu'on peut lire dans Making of Star Wars. Il voulait qu'Han Solo soit un cow-boy, un personnage à la James Dean, mais à la place d'un cheval, il avait un vaisseau spatial. Luke était un fermier. Je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu veux dire par fermier ?» Il m'a répondu « C'est une lune ferme ou une ferme interplanétaire. » Vous voyez un peu le genre. Oui, quand même, il y avait un petit côté. Pas oublier les années, on est au milieu de la décennie 70. Hein. On consomme aussi certaines substances, parfois. Pendant trois semaines, environ 250 acteurs vont être rencontrés chaque jour. À ce moment-là, Lucas se pose beaucoup de questions et pour lui, rien n'est vraiment arrêté. Il envisage même un temps de n'embaucher que des acteurs afro-américains pour les rôles principaux ou même d'aller tourner son film en japonais. Vous voyez qu'il va loin quand même. Peu à peu, les souhaits se précisent encore et alors que la phase de repérage est enclenchée, les trois héros du film trouvent leur visage. Luke sera incarné par Mark Hamill, Leia par Carrie Fisher, bien sûr la fille de l'actrice Debbie Reynolds, héroïne de Chantons sous la pluie, et puis Han Solo, bien sûr, par Harrison Ford, qui déjà a joué pour Lucas dans American Graffiti. Enfin, le tournage va pouvoir commencer et il s'annonce aussi épique que le film auquel il va bientôt donner naissance.
Marche impériale par John Williams à l'instant pour cette émission spéciale consacrée aujourd'hui à Star Wars. C'est une journée spéciale sur Europe 1 pour la sortie le 16 décembre prochain du Réveil de la Force.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et aujourd'hui est une journée spéciale sur Europe 1 consacrée à la sortie du Réveil de la Force puisque dès aujourd'hui vous pouvez précommander vos places pour aller voir le 7e épisode de Star Wars. Alors on l'a vu, le casting est fait, Franck, maintenant place au tournage.
Ah oui, alors le tournage, il doit avoir lieu, ça commence en mars 1976 dans le désert tunisien. Vous savez qu'il y a beaucoup de films à l'époque qui étaient tournés en Tunisie pour des raisons sur lesquelles je vais pas m'étendre, mais qui sont d'ailleurs assez intéressantes. Il se trouve qu'au même moment et quasiment à côté, vraiment sur un plateau très proche, le grand Zeffirelli, Franco Zeffirelli, est en train de tourner son Jésus de Nazareth. Et il est passé avant, et il a récupéré tout ce qu'il y a de professionnels tunisiens. Et notamment, il a récupéré également tout ce qu'il pouvait y avoir comme chambre d'hôtel sympathique dans les environs. Donc ça rend les choses très difficiles pour l'équipe américaine qui arrive, avec en plus des pluies, comme on en voit, on peut dire, jamais en Tunisie, des pluies littéralement diluviennes, avec des tempêtes qui s'abattent sur les décors. Les décors, le lendemain matin, sont quasiment méconnaissables, d'où peut-être le côté un peu délavé qu'il y a dans cette image du premier épisode de la Guerre des Étoiles. Et puis alors, des couacs techniques qui se multiplient, d'autant plus que bientôt, après la pluie, c'est la chaleur qui arrive, une chaleur qui se fait accablante. Lucas va devoir ajuster un petit peu dans son scénario, et notamment, il avait parmi les quelques guest stars le célèbre Alec Guinness, vétéran britannique qui avait accepté quand même un second rôle important, et on va devoir faire accepter à Sir Alec que son personnage meurt avant la fin du film parce que vraiment tout ça n'était plus gérable. À la fin du tournage en extérieur, je n'avais obtenu que dans les deux tiers de ce que j'espérais, se souvient George Lucas. J'avais l'impression que ça ne prenait pas une bonne tournure. Si les choses continuaient sur cette lancée, je n'arriverais jamais à finir le film. J'avais fait des compromis à droite et à gauche juste pour que les choses puissent se faire. J'étais profondément malheureux. Et il n'est pas au bout de sa peine, le pauvre, puisque on attaque maintenant la deuxième phase du tournage et que le tournage en question a lieu à Londres. Sauf qu'on est à Londres en 1976. Hein. On est avant l'arrivée de Margaret Thatcher dans un pays qui est littéralement tenu par les syndicats avec des règles, notamment dans l'industrie du cinéma, qui sont intenables. Et ça donne là encore des retards, des situations horribles, une crise permanente sur le plateau, d'autant plus que le film exige de très nombreux décors qu'il faut réaliser à toute vitesse. Et là-bas, de l'autre côté de l'Atlantique, la Fox regarde les devis s'accumuler et se dit que le budget va être littéralement explosé. Il n'empêche, à la fin de cette phase de tournage, le travail abattu est impressionnant. C'est Rinsler qui raconte dans le Making of Star Wars, à la fin du 84e jour de tournage, qui eut lieu 20 jours après la date prévue, la production avait enregistré 98 kilomètres de film. Faut vous dire qu'à l'époque, on voyait à quoi ressemblait un film parce qu'on le tournait sur une vraie pellicule, évidemment. C'est pas comme maintenant. Bon. Alors, Lucas rentre aux États-Unis, seulement les retards sont colossaux, les dépassements budgétaires intenables, le résultat n'est pas du tout ce qu'il attendait. Il va finir par craquer. La pression est telle qu'il fait, il est pris de douleurs cardiaques et on est obligé de l'emmener à l'hôpital. Il va quand même se remettre, reprendre les choses en main, et là, c'est une course contre la montre qui s'engage, une course contre la montre compliquée par les baisses de morale de l'équipe et par la pression continue du studio. Les effets spéciaux que souhaite Lucas sont révolutionnaires, il faut déployer des trésors d'inventivité. Quand je dis que c'est révolutionnaire, je me rappelle très bien, à l'époque, moi j'étais un petit garçon, mais je me rappelle qu'il y a beaucoup de revues qui sortaient avec justement l'explication des effets spéciaux de la Guerre des Étoiles. On lisait ça, on trouvait ça absolument incroyable. C'est vrai que c'était la première fois, j'allais dire, qu'on voyait voler littéralement ces espèces de grands vaisseaux et tout ça. On va en parler dans un instant avec Nicolas Carreau, bien sûr. Le plus grand défi pour Lucas, c'est que les grands combats spatiaux, réalisés notamment grâce à d'impressionnantes maquettes de vaisseaux, doivent être crédibles. Malgré tout, les choses avancent. Et au milieu des difficultés, de bonnes nouvelles apportent des petites bouffées d'espoir. C'est le cas, par exemple, lorsque Lucas entend pour la première fois la musique écrite par John Williams et que vous venez d'entendre. Cette musique, ce compositeur lui a été recommandé par son ami Steven Spielberg, qui lui avait d'ailleurs demandé lui-même un certain nombre de grands génériques. Le compositeur, là on peut le dire, s'est surpassé. Et vous savez ce qu'on dit, quand la musique est réussie, le film le sera probablement, on en dit autant pour les émissions de radio. Moi, je crois beaucoup à l'importance des musiques. Le bout du tunnel approche, si je puis dire. Les détails sont réglés un par un. Vient le temps des avant-premières, et même si les finitions techniques restent à faire, d'urgence, on travaille nuit et jour, hein, les réactions sont déjà prometteuses. Après 4 ans de pression, d'efforts, le verdict décisif approche, celui du public, bien entendu. L'équipe du film retient son souffle jusqu'à la sortie officielle qui a lieu le 25 mai 1977, d'abord dans un nombre limité de salles, et là, tout de suite, les résultats sont extraordinaires. À San Francisco, au Coronet, le public applaudit dès l'arrivée des vaisseaux spatiaux. Les cris de joie sont partout dans la salle et ne cessent qu'à la moitié du générique de fin, bien que les méchants aient aussi été hués, raconte Rinsler. Le paysage des années 70 ne proposait aucun film de ce genre. On avait l'impression que le monde en serait changé à jamais. Vous avez compris qu'il s'agit d'un triomphe, comme on en a très rarement connu dans l'histoire du cinéma. George Lucas a réussi son incroyable pari. Ah oui, mais dans son esprit, ce n'était que la première étape. Il y a toutes les autres encore à venir.
Vous aimez Star Wars ou vous découvrez la saga à l'occasion de cette journée spéciale sur Europe 1? N'hésitez pas à réagir et à poser vos questions à Franck Ferrand et Nicolas Carreau jusqu'à 15h sur la page Facebook Au cœur de l'Histoire ou sur Twitter avec le hashtag ACDH. Franck Ferrand revient dans un instant.
L'Histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et aujourd'hui, Europe 1 vous propose une journée spéciale Star Wars. Vous pouvez d'ailleurs accéder aux billets pour aller voir le 16 décembre le Réveil de la Force. Les préventes sont sur europe1.fr. Aujourd'hui, Franck, vous nous parlez donc de cette fameuse saga et le premier volet est un succès.
Un phénomène de société même, on peut le dire. Voilà ce qu'est la guerre des étoiles. Alors, on dit nous la guerre des étoiles alors que ces Star Wars sont les guerres stellaires en quelque sorte. Hein. Un succès phénoménal puisque il affiche, en tout cas le premier opus de la série, quelques 800 millions de dollars au box-office mondial, vous imaginez ça. D'autres films sortis à la même époque sont carrément balayés. C'est le cas notamment de ce qui devait être un des grands films de Martin Scorsese, New York, New York, qui évidemment est complètement... Il s'agissait de montrer l'âge d'or du vieil Hollywood, etc. C'est littéralement balayé. L'impact de la guerre des étoiles est considérable, les queues devant les cinémas sont inouïes, on voit tout de suite se constituer des sociétés de fans un peu partout, les enfants jouent avec des sabres laser et des vaisseaux spatiaux, etc. L'idée de réaliser une suite était naturelle. Elle était d'autant plus naturelle qu'il y a une dimension commerciale tout à fait assumée dans ce projet, on y viendra aussi dans un instant, et qu'il n'était pas question de s'arrêter en si bon chemin, bien entendu. Simplement, pour George Lucas, les choses désormais vont se passer très différemment. Dans le contrat qui le liait à la Fox, il a eu le flair de se réserver une part des droits sur le merchandising, c'est-à-dire sur tout ce qu'on peut tirer du film, hein, tous les produits dérivés comme on dit, et sur les suites éventuelles. Et donc, il compte gagner en indépendance désormais et n'avoir plus ce studio constamment sur le dos. Aussi va-t-il financer son nouveau film lui-même, raconte Christophe Chadfaux dans le hors-série de Studio Ciné Live qui est consacré à Star Wars. Le pari est audacieux, mais c'est encore la meilleure solution pour garder un contrôle absolu sur son travail. Grâce aux recettes combinées du film et des produits dérivés, Lucas obtient le prêt pour la mise en orbite du nouvel épisode avec 25 millions de dollars. Le budget original de l'Empire Contre-Attaque représente déjà plus du double de celui de son prédécesseur. Bah, c'est la grande machinerie américaine qui se met en route, hein, bien entendu. Cette fois, il faut dire que George Lucas avait quand même été échaudé, hein, par la première expérience. Cette fois, il s'agit de ne pas réaliser le film lui-même, ce qui n'empêche pas George de suivre le projet de très près. Après un tournage compliqué, il y a encore des dérapages budgétaires dans l'Empire Contre-Attaque. Le deuxième opus est un nouveau triomphe à sa sortie le 21 mai 1980, et il en est encore de même avec l'épisode suivant, le retour du Jedi, qui clôt cette première trilogie Star Wars en 1983. Je dis cette première trilogie, à l'époque on pensait, enfin nous étions nombreux à imaginer que ce serait la seule, à vrai dire. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'attente, c'est vrai, est longue pour les fans de la saga, qui désormais sont très nombreux. Ils vont devoir attendre les années 90 pour que se précise l'idée d'une nouvelle trilogie, dont l'action se situerait non pas après, mais avant l'intrigue développée dans les années 70 et 80. Cette fois, Lucas décide de reprendre du service non seulement en tant que scénariste, mais comme réalisateur. Il explique d'ailleurs dans ce hors-série de Studio Ciné Live « Ma décision tenait au caractère très expérimental de ce chapitre. Nous allions essayer des choses nouvelles et puis c'était surtout un gain de temps et d'énergie énorme qui m'éviterait d'avoir tout à expliquer à un autre réalisateur. » Ça s'appelle « La menace fantôme », le nouvel épisode, vous savez, premier du nouveau triptyque qui sort donc en mai 1999. Lucas a pris de gros risques financiers et de nouveau, il va être largement rétribué puisque c'est un immense succès. Même si malgré des effets spéciaux à couper le souffle, certains critiques aient accueilli le film beaucoup plus fraîchement cette fois-ci. Ils seront un peu plus chaleureux pour les deux épisodes suivants, « L'attaque des clones » en 2002 et puis peut-être surtout « La revanche des Sith » en 2005. L'aventure Star Wars, dont la franchise entre-temps a été rachetée par Walt Disney, continue aujourd'hui puisque donc, vous le disiez et nous le répétons depuis ce matin, un nouvel épisode va sortir ce 16 décembre. Alors, l'ironie veut que George Lucas, jeune réalisateur à contre-courant et un peu hostile au système hollywoodien, soit devenu maintenant l'acteur clé, si je puis dire, de ce système et l'élément le plus rentable de l'industrie hollywoodienne, en transfigurant un genre, la science-fiction, un genre que jusque-là on avait tendance à considérer comme assez peu rentable, en racontant, comme le souligne Christophe Chadefaux, l'histoire de courageux aventuriers là où les années 70 n'avaient Dieu que pour les anti-héros, il a bâti une œuvre qui devait contribuer à renouveler le cinéma, nous allons voir jusqu'où dans un instant. Plus largement, la saga a su pérenniser son influence culturelle considérable. Aujourd'hui, les personnages de Dark Vador, de Yoda, font partie quasiment de l'inconscient collectif, tout comme les répliques célèbres. « Je suis ton père », n'est-ce pas? Qu'on entend aussi depuis quelques jours sur Europe 1 dans une voix que je n'arrive pas à reconnaître. Et puis, bien sûr, que la force soit avec toi. C'est ce que j'ai envie de dire à Nicolas Carreau. Bonjour Nicolas.
Bonjour Franck.
Merci de venir nous faire profiter de vos lumières sur un sujet dont je dois dire que je ne suis pas un spécialiste, mais un fan comme tous les autres.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et justement, il en est question de Star Wars dans Au cœur de l'histoire aujourd'hui. Franck Ferrand, vous recevez Nicolas Carreau, journaliste à Europe 1.
Alors Nicolas, il faut déjà que vous m'expliquiez qui est cette espèce de garde du corps qui lit mes fiches par-dessus mon épaule là depuis le début de cette émission. Parce que nous avons, je le précise pour ceux qui ne nous suivraient pas avec l'image, nous avons un personnage de la guerre des étoiles dans le studio.
Oui, c'est ce fameux soldat tout blanc en armure et ça s'appelle un Stormtrooper. Ça fait partie de tous ces soldats qui sont un peu des pions en fait dans le film. Dans la première trilogie, c'est plutôt du côté des méchants parce que le pouvoir est à l'Empire, au côté obscur. Et donc c'est la grande armée gigantesque, ce sont des légions, un peu comme les démonstrations de force des nazis, vous voyez, ce sont des grands rangs de soldats comme ça, qui sont tous les mêmes, ils ont tous exactement le même costume, ils sont tous masqués, donc ils sont extrêmement dépersonnalisés, et dans la trilogie qui vient ensuite, ce qu'on appelle la prélogie, celle qui a été tournée et diffusée dans les années 90 et 2000, ils sont plutôt du côté des gentils.
Alors, les gentils, les méchants, on a toujours l'impression d'une forme de manichéisme et on va voir d'où tout cela peut venir, bien entendu, puisqu'il y a des racines, il y a une inspiration à tout ça. Et George Lucas n'est pas parti de rien pour écrire sa saga, et c'est évident. Mais quelques personnages, peut-être déjà. J'ai cité Luke Skywalker, bien entendu, la princesse Leia, Dark Vador. Ces personnages sont devenus quasiment des mythes de notre époque.
Oui, mais c'est ça ce qui est fascinant dans Star Wars. C'est quand on découvre pour la première fois ce film, on entre évidemment dans un monde inconnu par définition, mais il y a quelque chose, on ne peut pas se l'expliquer, quelque chose de familier. Et en fait, c'est tout à fait logique, c'est que George Lucas était un fan de mythes, de mythologie grecque, de mythologie romaine, de mythologie mythologie même indienne. Et il a même étudié à l'université la mythologie et il s'est pris de passion notamment pour un homme qui s'appelle Joseph Campbell, qui est un grand mythologue, et un spécialiste des mythes, et qui a écrit notamment un livre qui s'appelle Le héros aux mille et un visages, qui est très très connu aux États-Unis, un peu moins en France, mais qui en fait est un livre fascinant parce que Joseph Campbell a repris tous les points communs qu'il y a entre tous ces mythes. Quand je dis tous ces mythes, regardez, c'est quand même un pavé. Il a repris toutes les mythologies mondiales,
ça va tout à fait dans ce genre de travaux structuralistes du milieu du XXe siècle. Hein. L'ouvrage de Joseph Campbell, Le héros aux mille et un visages, sort en 1949. Ouais. Et l'idée de tous ces, alors on pourrait en citer d'autres, hein, Vassili Prop sur le conte en Russie, etc. Il y a beaucoup d'ouvrages de ce genre qui, à l'époque, essaient de chercher le point commun à toutes les mythologies,
exactement,
en quelque sorte.
De saisir l'universel dans tous ces mythes. Et Joseph Campbell, c'est là que c'est amusant aussi à lire, il a mis au point tout le schéma narratif commun à tous les mythes. Alors, je peux vous faire toutes les étapes.
Alors, oui,
et on va les retrouver non seulement dans Star Wars, mais dans tous les mythes. Ça commence toujours par l'appel de l'aventure. C'est-à-dire que c'est un héros qui vit une vie ordinaire, comme nous tous. Alors, c'est un fermier dans le cas de Luc.
Là, c'est un peu le mythe de la toison d'or, en fait.
Oui,
c'est ça, c'est quand.
Mais c'est tous, c'est tous les mythes,
oui,
c'est ça l'idée.
Oui.
Pour le roi Arthur, c'est pareil. C'est un jeune garçon qui a une vie complètement banale. Et il y a cet appel de l'aventure, c'est-à-dire qu'il y a un moment, un élément perturbateur qui va lui donner un choix. Est-ce que tu veux garder ta petite vie ou est-ce que tu veux partir dans l'inconnu avec éventuellement la promesse d'augmenter tes connaissances, de t'améliorer, etc.
Vaut mieux qu'il réponde la deuxième solution.
Ah bah c'est, il fait comme il veut, mais sinon il n'y a pas d'histoire.
Voilà.
Alors ensuite, il y a toujours l'intervention surnaturelle, une aide surnaturelle. En général, c'est l'intervention d'un vieux sage. Donc dans Star Wars, c'est évidemment Obi-Wan Kenobi, le maître Jedi, qui va chercher, enfin qui tombe sur Luke, ou plutôt Luke tombe sur Obi-Wan Kenobi, qui va lui proposer de devenir un Jedi. Chez le roi Arthur, il y a Merlin l'Enchanteur, bien entendu. Ensuite, il y a ce que Campbell appelle le passage du premier seuil. Alors là, c'est le moment où le héros qui est encore un garçon normal ou une fille normale et qui n'a aucun pouvoir, qui ne sait pas du tout comment faire face au danger, qui pour la première fois va être confronté au danger. En général, c'est assez violent et ça lui donne une bonne leçon dès le départ, vous voyez. Ensuite, il y a tout un chemin qui est très long qui s'appelle le chemin des épreuves, c'est l'initiation. Alors là, petit à petit, le héros va se former, il va apprendre des techniques, il va se mettre un peu de plomb dans la tête, si vous voulez. Et puis, dans l'occurrence, pour Luke Skywalker, il va tout petit à petit devenir un Jedi.
Ben
je
voilà,
dis pour Luke Skywalker, mais c'est pareil pour Anakin Skywalker, qui est le père de Luke Skywalker, dont on apprend l'histoire dans la première trilogie et qui deviendra ensuite Dark Vador.
Parmi tous les mythes empruntés à Joseph Campbell, il y a quand même un cycle narratif qui va être privilégié par George Lucas. C'est justement, et vous l'avez cité tout à l'heure, le mythe des chevaliers de la table ronde quand même.
Exactement. Et alors là, on n'est pas en train de décortiquer pour s'amuser comme ça en essayant de voir les points communs entre tel et tel. Non, c'est une inspiration revendiquée par George Lucas. Et effectivement, le roi Arthur, c'est évident. Les chevaliers de la table ronde, ce sont les chevaliers Jedi. C'est une fraternité. Il y a un code d'honneur à respecter. Vous savez, il y a le fameux personnage joué par Harrison Ford, le cow-boy, comme vous disiez. Et c'est effectivement comme ça que George Lucas l'a conçu. C'est un cow-boy un peu solitaire. C'est aussi un chevalier solitaire, d'une certaine manière. Han Solo, c'est Lancelot, bien sûr.
Voilà.
Le chevalier errant de la table ronde. C'est exactement la même chose. Je le disais, Obi-Wan Kenobi, c'est le maître au pouvoir quasiment magique. Et ça, c'est Merlin l'Enchanteur, bien sûr.
Il y a pas d'anagramme,
là. Excalibur. Alors, des anagrammes, après, on peut les trouver, mais c'est moins revendiqué, je pense, par Lucas.
Il y en a,
mais il manque toujours 2-3 lettres, vous voyez. Il y a aussi Mordred, qui est l'ennemi de Arthur, mais qui, au départ, fait partie des chevaliers de la table ronde. Il y a même certaines versions du roi Arthur qui disent que Mordred est aussi le fils d'Arthur, mais ce fils et ce chevalier va quitter la table ronde, va quitter, si vous voulez, le bon côté de la force pour partir chez les ennemis, dans le côté obscur, chez les méchants, voilà.
Et la belle princesse Leia, alors,
c'est Guenièvre, bien sûr. Et Han Solo, Lancelot, tombe
voilà,
amoureux de Guenièvre, comme par hasard. Non, mais tout ça est absolument
avec, vous parliez bien sûr de l'épée magique d'une certaine manière, Excalibur.
Hein. Qui a la faculté de s'illuminer comme dans Star Wars.
Les sabres laser.
Il y a Chewbacca aussi qui est un peu le héros loup-garou, vous voyez, mi-humain, mi-bête. Et c'est aussi la brute gentille qu'il y a dans tous les romans médiévaux.
Et ça n'est pas un hasard si c'est Joseph Campbell qui est à l'origine, si je puis dire, de tous ces thèmes-là. Parce qu'on est quand même bien là dans une mythologie qu'on pourrait appeler celtique ou post-celtique. Pardon, cher Nicolas Carreau, mais nous faisons une émission d'histoire ici. Hein. On est bien dans quelque chose qui va puiser ses racines dans un Occident pré-médiéval assez détaché de la mythologie gréco-romaine quand même.
Oui, pas seulement, parce qu'effectivement, oui, c'est vraiment, on retrouve tous les codes du roman.
Nordique, disons. Hein.
Oui, avec ces combats d'épée un peu lents dans la première trilogie. Ça, là, on retrouve vraiment le combat d'épée, on tient l'épée à deux mains, etc. Mais il y a aussi toute une inspiration, elle aussi revendiquée par Lucas, de la tradition orientale, notamment les samouraïs. Les combats à l'épée, dans la première trilogie cette fois, sont beaucoup plus virevoltants. Ils répondent à des techniques de Aïdo, de Kendo, qui sont les arts martiaux des samouraïs, en fait, du maniement du sabre. Et tout ça est absolument revendiqué. Il y a même le code d'honneur des samouraïs. Tout ça est exploité dans Star Wars, et y compris le mythe du Ronin. Vous savez que c'est le samouraï qui a renié son clan. Il y a aussi ça dans Star Wars.
Est-ce que je peux, sans craindre un coup de sabre laser, vous dire qu'il y a quand même, quand on compare cet univers créé par Lucas et ses équipes avec l'univers de Tolkien, et avec le Seigneur des Anneaux, on a l'impression quand même d'avoir quelque chose d'un peu moins authentique. C'est un petit peu plus gadget quand même, la Guerre
moins
des Étoiles, non?
Moins authentique que le Seigneur des Anneaux. Franck, vous rappelez le Seigneur des Anneaux? C'est l'histoire de petits hommes, ou alors de gros, de monstres. C'est exactement pareil que le Seigneur des Anneaux, Franck. Il a créé, et juste
je
surtout.
Je me supprime mon coup de sabre laser, mais je m'en doutais en même temps.
Comme Tolkien, parce que Tolkien faisait partie des classiques de Lucas, il a, comme Tolkien, créé un monde. C'est ça ce qui est fascinant, et ça ce qui en fait aussi un mythe. C'est qu'il a c'est sorti de son cerveau tout un monde, une religion, des paysages, etc.
Il y a les mythes, mais il y a les réalités aussi. Vous parliez tout à l'heure à propos de ce personnage-là, comment on
le Stormtrooper.
Le Stormtrooper. Vous parliez des légions nazies, etc. Il y a des références à l'histoire du XXe siècle, pas seulement d'ailleurs. Hein.
Ça en fourmille. Pour finir avec le XXe siècle, donc il y a ces légions, effectivement, ces démonstrations de force terribles, des forces malfaisantes, mais il y a aussi tout le totalitarisme et la prise de pouvoir, notamment le seigneur Palpatine, qui sera plus tard l'empereur malveillant. Au départ, il fait partie des sénateurs de la République. Tout ça est très démocratique, on vote, etc. Mais par les lourdeurs bureaucratiques, tout ça va s'effondrer. Et c'est comme ça que le pouvoir d'un seul va prendre naissance, exactement comme pour Hitler, comme pour tous les totalitarismes qu'on a connus au XXe siècle. Mais il n'y a pas seulement ça. Il y a aussi l'Antiquité romaine. Oui. Souvenez-vous, dans la trilogie des années 90-2000, il y a un moment, toute une scène dans une arène où les chevaliers Jedi sont enchaînés à des poteaux. Excusez-moi, mais je ne fais pas un dessin, Franck, oui, vous connaissez ça par cœur. Et on fait entrer des bêtes féroces, alors qui ne sont pas des lions, mais qui sont plutôt des gigantesques araignées ou des fauves qui n'existent pas, extraterrestres. Fauves, oui. Mais c'est la même chose. Et bon, là, en l'occurrence, ils arrivent à se détacher des poteaux et à combattre les bêtes, mais ça c'est pour la narration. Mais c'est exactement pareil, il y a aussi la course de chars, bien sûr. Anakin Skywalker, dans le premier épisode, est un spécialiste du pod, c'est un char, sauf qu'au lieu d'aller dans les 40-50 km/h, je sais pas à quelle vitesse ils allaient dans le monde romain, mais là ils vont plutôt à 300, 500, 600 km/h, mais c'est exactement pareil. Ils tournent autour d'une arène, exactement pareil.
Il y a les combats de cap et d'épée, hein, bien entendu.
Bien sûr,
hein,
j'ai dit qu'il y avait les samouraïs, oui, qu'il y avait les combats médiévaux, mais il y a aussi le combat du 17e, le duel singulier, c'est très très présent.
Il y a un peu d'Artagnan.
Exactement.
Voilà, je me doutais qu'avec Nicolas Carreau, nous finirions à un moment ou un autre par citer Alexandre Dumas.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Nous sommes aujourd'hui au cœur de l'histoire de l'incroyable saga Star Wars, puisque le 16 décembre prochain, vous pourrez découvrir partout en France le Réveil de la Force, le 7e épisode. Et aujourd'hui, Franck Ferrand, vous recevez Nicolas Carreau, journaliste à Europe 1.
Et oui, qui arrive tout droit d'ailleurs de cette galaxie. Entre parenthèses, on est dans un temps très lointain, nous dit le générique à chaque fois.
Ils nous parlent du passé et eux sont déjà dans un futur très très éloigné.
C'est ça qui est très bizarre. C'est une pirouette, simplement.
Ça fait partie de la dimension mythique, quoi. On raconte raconte une histoire, on commence par Il était une fois, ou Il y a très très longtemps, c'est exactement pareil.
C'est-à-dire que la question qui se pose est de savoir si l'on place le spectateur lui-même dans un 30e siècle qui lui permettrait de considérer Star Wars comme le passé, ou si l'on considère qu'il y a eu des civilisations préexistantes, voilà.
C'est quand même... Si on raconte une histoire à l'imparfait, c'est que ça a existé, qu'on peut...
Dans un autre monde,
voilà, on peut
très
témoigner
loin.
De son authenticité. Si on dit un jour peut-être il arrivera ça, personne ne vous croit.
Et voilà, c'est toute la grande question ça quand même. Et on peut dire que George Lucas, de ce point de vue, a appris la leçon de toute cette épopée de science-fiction qui envahissait à l'époque les différents médias américains. Pas oublier qu'il commence à travailler en 73, à une époque où l'on est pétri de Cosmos 99, de Flash Gordon, etc. Et puis de littérature également, littérature de science-fiction.
C'est là où, effectivement, George Lucas, là aussi, revendique cette inspiration, non seulement dans le passé et dans les mythes, mais aussi dans la science-fiction de son temps. Lui, il veut aller un tout petit peu plus loin, mais au départ, il voulait juste réaliser un film Flash Gordon, qui était une sériale de l'époque, et lui, il voulait en faire un grand film. Il a été fait plus tard, mais qu'il n'a pas été très très bon. Enfin bon, bref, il a pas eu les moyens pour Flash Gordon, donc il est parti sur complètement autre chose. Mais ça ressemble beaucoup.
Oui,
et notamment, Lucas était aussi très inspiré par tous les comics, les BD, vous savez, américaines, qui parlent de super-héros, qui parlent de toute cette science-fiction américaine.
C'est Ray Bradbury à l'époque, c'est Isaac Asimov.
Oui, mais aussi dans la bande dessinée. Il était tellement fan de bande dessinée que son père a construit une remise dans le jardin pour pouvoir toutes les caser. Mais effectivement, vous avez raison, Franck. Il y a les grands auteurs de science-fiction qui inspire encore aujourd'hui nos écrivains de science-fiction des années 2010, c'est notamment Isaac Asimov, qui est un génie qui est à l'origine de tout ce qu'on connaît aujourd'hui des robots dans les histoires.
Les robots sont très présents dans la Guerre des Étoiles.
Et Isaac Asimov, il a écrit un cycle, c'est-à-dire plusieurs histoires qui s'appellent le cycle des robots, justement, où il a mis tout en place. Et notamment, il a créé, dès le départ, trois règles dans ce monde imaginaire du futur où les robots vivent parmi nous. Trois règles pour que règne une harmonie entre les humains et les robots. Je vous les donne, ces règles. Première règle, un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni en restant passif permettre qu'un être humain soit exposé au danger. Deuxièmement, un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par un être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi. Et troisième et dernière règle, un robot doit protéger son existence quand même, tant que cette protection n'entre pas en conflit, bien entendu, avec la première ou la deuxième loi.
Là,
et c'est exactement
là, on a envie
ce qui se passe
que la réalité, oui, et la réalité rejoint la fiction.
Ah oui, alors oui. Hein,
ou l'inverse d'ailleurs, plutôt.
Exactement, parce que là, à l'ONU, l'année dernière, par exemple, ils ont fait une table ronde très très sérieusement pour se poser la question de savoir est-ce qu'on peut donner la permission à un robot de prendre la décision de tuer. Quand ils disent robot, on entend aussi drone. Vous savez que les drones sont partout maintenant dans les zones de combat. Ils repèrent les ennemis. Pour l'instant, ce ne sont pas eux qui tirent, c'est un humain qui est derrière et qui prend la décision. Mais il pourrait très bien, techniquement c'est absolument réalisable, il pourrait très bien considérer que un ennemi, ils sont programmés pour tirer, ou alors ils prennent la décision eux-mêmes de tirer pour se sortir d'une situation. Ça pose des problèmes juridiques très compliqués, y compris dans le monde réel cette fois.
Grâce à vous, Nicolas Caro, je sais qu'en 1974, on a demandé à Asimov comment il voyait le futur, et on a situé le futur 40 ans plus tard, c'est-à-dire en 2014, quasiment à notre époque. Alors, est-ce qu'il a vu notre époque ?
Il a pratiquement tout vu. C'était assez impressionnant. Et notamment, il a vu quelque chose que peu ont vu, c'est l'utilisation d'Internet et sur comment on allait communiquer 40 ans plus tard, donc en 2014. Il a vu les réseaux sociaux. C'est impressionnant parce que il y a beaucoup de futurologues qui ont imaginé des choses. C'est très drôle quand on regarde des reportages, par exemple, des années 50 qui nous parlent du futur, qui nous disent qu'on aura des voitures volantes, souvent il y a beaucoup de reportages avec une ménagère qui nous explique que son poulet arrive dans sa maison tout seul par un rail, il passe par le four et clac, il est découpé par une machine. Ben voilà, c'est complètement désuet. Asimov, lui, grâce à son imagination, à force d'inventer des histoires, il a réussi à voir le futur exactement comme un scientifique. D'ailleurs, Asimov était lui-même un scientifique.
Il y a deux disciplines là qui se font concurrence, ce sont pas tout à fait les mêmes, qui sont la prospective et la futurologie, c'est-à-dire l'art de lire dans les évolutions présentes ce que pourrait donner le futur. Ça vous captive, ça vous passionne, évidemment, Nicolas Caro, à travers, bien entendu, la littérature, et je pense, bien sûr, à Jules Verne, etc. Quand Jules Verne décrit Paris au XXe siècle, c'est quand même pas mal. Bon. Mais aussi à travers l'étude des évolutions scientifiques actuelles. Et ça, c'est l'objet, et je voulais absolument citer le livre, on est exactement dans la continuité de tout ça. Ça s'appelle « L'avenir est pavé de bonnes intentions » à la librairie Vuibert. 80 inventions géniales et leurs effets indésirables. C'est-à-dire que vous prenez un certain nombre d'inventions actuelles, et vous imaginez ce qu'elles vont donner dans X années.
Voilà, en fait, je me pose pas la question du nombre d'années, je me dis simplement le futur. Mais je prends effectivement des inventions qui sont encore dans des laboratoires, mais des inventions extraordinaires. On ne se rend pas compte aujourd'hui qu'on vit vraiment dans un roman de science-fiction. En tout cas, pour l'instant, un peu dans les laboratoires, mais regardez les voitures autonomes qui arrivent, oui, les imprimantes 3D,
elles
etc.
Elles se garent toutes seules, déjà, là, les voitures.
Hein. Et surtout, vous allez me dire, oui, mais attendez, on a connu ça avec la révolution industrielle, c'est pas la première fois qu'il y a une vague d'inventions et d'innovations géantes comme ça. Oui, mais sauf qu'à l'époque, vous regardiez un train, vous voyez un engrenage qui en fait tourner un autre, qui fait tourner un axe et des roues. Tout le monde peut le comprendre. Bon, il faut être un génie pour le concevoir, comme ça, à partir de rien, mais une fois qu'il est là, on peut comprendre. Aujourd'hui, je vous mets au défi de m'expliquer comment marche un microprocesseur. Moi, j'en sais rien du tout. Et c'est ça ce qui est incroyable en ce moment.
C'est ça qui se passe quand même un peu là.
Un autre écrivain de science-fiction qui disait toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. C'est vrai qu'il y a quelque chose de magique dans toutes ces inventions aujourd'hui. Il y a par exemple, j'avais trouvé comme ça dans un laboratoire japonais, des scientifiques qui travaillent en ce moment sur une machine à lire les rêves. Ils analysent les ondes cérébrales de quelqu'un qui est en train de dormir et qui est en train de rêver en l'occurrence. Et ensuite, ils arrivent à déterminer de quelle image il a rêvé. Et donc, ils ont fait le test et maintenant, ils arrivent à 60% à reconstruire le film du rêve du dormeur. C'est-à-dire que le dormeur se réveille, on lui dit « Est-ce que c'est bien ça ?» Il dit oui.
Ça, c'est l'invention, ça, c'est ce qu'on est en passe d'inventer. Mais vous allez plus loin, vous, parce que vous imaginez ce que ça donnera au quotidien. Et généralement, c'est pas très positif, la vision que vous en tirez.
En général, je pars avec un regard bienveillant. Mais par exemple, reprenons la machine à lire les rêves. Si on arrive à lire les rêves, c'est qu'on lit dans les pensées. Si on lit dans les pensées, c'est que, en fait, vous ne pouvez plus rien penser, puisque à partir du moment où tout ça est public, c'est terrible, quoi. C'est-à-dire que vous n'avez plus votre jardin secret. C'est horrible. C'est un cauchemar, en fait, cette machine à lire les rêves.
Oui, il y a beaucoup de ces inventions qui, dans les développements qu'on peut leur imaginer, deviennent effectivement des cauchemars. De là, imaginer que notre futur est un cauchemar. Ça me donne une idée, ce qu'on est en train de dire là, Nicolas Carreau. Pour une fois, au lieu de faire du passé, au lieu de faire de l'histoire dans notre émission, il faudra qu'on monte une émission de prospective là, dans les semaines qui viennent. On essaiera de parler un peu du futur et de voir justement quelles sont les évolutions probables. Ça, c'est passionnant. Ça me rappellera mon adolescence.
C'est la manière de créer, parce qu'effectivement, si on pense à quelque chose, on peut ensuite le concevoir.
Alors, l'ouvrage s'appelle « L'avenir est pavé de bonnes intentions » de Nicolas Carreau. 80 inventions géniales et leurs effets indésirables à la librairie Vuibert. Pour revenir à Star Wars, comment est-ce qu'ils voient le futur, eux? C'est ça qui est amusant.
Alors là, la différence, c'est que c'est un futur extrêmement éloigné et ils voient le futur un peu comme les écrivains de science-fiction de l'époque, cela dit. Hein. C'est pour ça que ces inspirations sont très revendiquées. Par exemple, la planète capitale, vous vous souvenez, dans Star Wars, c'est la planète où se réunit la République, le Sénat, etc. C'est une planète ville, en fait. Elle est hérissée sur toute la surface de la planète. Ce sont des gratte-ciels, en fait. C'est une ville-planète. C'est incroyable. Et bien ça, c'est la planète d'Asimov qui s'appelait Trantor. Et dans Star Wars, elle s'appelle Coruscant, cette planète.
Et pourquoi tous ces lasers? Est-ce que c'est parce que c'est visuel, tout simplement? Après tout, on fait du cinéma. Ou est-ce que c'est parce que dans les années 70, on pensait qu'à ça?
Alors ça, je peux pas vous dire. Je pense qu'il y a effectivement pour le spectacle. Mais en fait,
ça
quand on voit une bataille navale, ça crée des lasers, ça crée des effets de lumière impressionnants. D'ailleurs, des Américains, la défense américaine est en train de travailler sur des systèmes de canons laser.
Est-ce que vous pensez que la nouvelle série, là, le nouveau triptyque, va s'inscrire exactement dans la lignée des précédents? Alors, si j'en crois ce que nous disent nos auditeurs, on a reçu quand même pas mal de messages hein, pendant le cours de cette émission, beaucoup nous disent il y avait en quelque sorte une pureté et une exigence dans le premier triptyque qu'on retrouve moins dans le second, destiné davantage à un public adolescent, me disent certains auditeurs. Comment analysez-vous ce qui nous arrive, le troisième?
Il est de bon ton, à mon avis, toujours dans ces cas de figure, de préférer les premiers films qui ont un côté un peu désuet, patiné, comme ça. Moi, je vais vous dire, j'aime beaucoup les premiers films, mais je préfère la deuxième trilogie, simplement parce que les effets spéciaux sont d'une bien meilleure qualité, et pour cause. On a avancé dans les techniques d'effets spéciaux, et donc moi je... C'est personnel, mais je m'y crois plus parce que tout a l'air vraiment réel dans la première trilogie. Il faut un tout petit effort. Enfin, c'est très bien fait, mais parfois on voit quand même les ficelles, quoi. On voit un peu la maquette, surtout quand on est habitué au film d'aujourd'hui. Je pense que la prochaine va être encore mieux, du coup, parce qu'il y a encore plus d'effets spéciaux. Alors, avec ce que, effectivement, dans la première trilogie, on tournait dans les décors réels. Vous l'avez dit, la Tunisie. Maintenant, c'est des décors. Les gars sont dans des grandes salles toutes vertes pour, vous savez, ensuite coller des images de synthèse par-dessus. Effectivement, les paysages de la première trilogie sont bien meilleurs. Mais les effets spéciaux, à mon avis, dans la dernière et dans la prochaine, seront encore meilleurs.
Star Wars, le réveil de la force, c'est en salle le 16 décembre prochain. On vous le dit et le répète depuis ce matin. Merci beaucoup Nicolas Carreau. Vous êtes un peu l'homme du futur sur cette antenne. Mais attention, un futur à la Alexandre Dumas.
Dans un instant, nous reviendrons dans le passé, Franck, puisque Eric, fidèle auditeur, va en savoir plus sur la façon dont nos ancêtres envisageaient l'avenir.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et aujourd'hui, Franck, c'est une question d'Eric qui veut en savoir plus sur la façon dont nos ancêtres envisageaient l'avenir.
Alors justement, nous parlions avec Nicolas Carreau il y a un instant. On l'avait fait pas mal dans une émission d'été qui s'appelait Les origines du futur, d'ailleurs avec notre ami Alain Sirou, tous les trois, on s'était bien amusés là-dessus. On parlait de la manière dont nos ancêtres, effectivement, pouvaient envisager l'avenir. Il y a eu énormément d'enquêtes qui ont été faites à partir des années 1950 dans toutes sortes de revues scientifiques et parascientifiques sur le sujet. Et notamment, la grande question, c'est de savoir comment on vivrait en l'an 2000. Et le point commun à la quasi-totalité de ces enquêtes, c'est qu'on parle beaucoup de transport. Toutes les questions de voitures volantes, etc., jusqu'à la téléportation, hein, sur laquelle on avait eu l'occasion de parler. On parle beaucoup de guerre également, comme si les moyens de se faire la guerre allaient amener en eux-mêmes la Troisième Guerre mondiale, à laquelle on croyait beaucoup à l'époque de la guerre froide. Cela dit, c'est assez normal et assez naturel. Et puis on parlait beaucoup de robotique également, comme si tout allait être fait par des machines. Alors, il faut bien reconnaître que dans tous ces domaines, il y a quand même une part de vrai, bien entendu, et notamment dans la robotique, puisque évidemment, si nous ne sommes pas, contrairement à ce qui se passe dans ce studio cet après-midi, entourés de robots bipèdes, en revanche, il y a énormément de machines qui nous aident à avancer, bien sûr. Alors, je ne vais pas revenir sur tous les grands ouvrages d'anticipation, ceux de Jules Verne, bien entendu. Il y en a un quand même que j'aimerais citer parce qu'il est tout à fait étonnant. Il s'appelle « L'an 2440, rêve s'il en fut jamais ». Il a été écrit par Louis-Sébastien Mercier et il nous donne une idée de ce que pourrait être un monde où les femmes seraient indépendantes, vous imaginez, où l'on en viendrait à détruire les parlements dans le sens ancien du terme. Et oui, car cet ouvrage de prospective hallucinée sur l'an 2440 a été écrit par un certain Louis-Sébastien Mercier, tenez-vous bien, en 1770.